Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Okapi. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux interdits qui ont façonné la communauté Nandé. Entre tradition et modernité, comment ces règles ancestrales influencent-elles encore nos vies? Notre invité, M. Mouindo Wema Kennedy, passionné par son patrimoine culturel, nous éclairera sur les conséquences du non-respect de ces interdits et sur les défis que cela pose pour les générations actuelles. Je suis Rosalie Zawadi et je vous souhaite la bienvenue.
Radio Okapi.
À Goma,
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
Monsieur Kennedy Wema, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous nous rencontrons ce matin pour parler des interdits dans la communauté Nandé. On sait que nos communautés traditionnelles avaient des interdits, mais qui sont aujourd'hui banalisés par la modernité. Chez vous, par exemple, chez les Nandé, comment on classait les interdits?
Déjà, dans toutes les communautés du monde, il y a la morale qui interdit certains actes, ça veut dire une panoplie de choses qui sont liées aux bonnes mœurs. Par exemple, je peux dire que ce que la Bible nous apprend, comme les 10 commandements de Dieu, ce sont déjà des interdits dans toutes les communautés, autant que chez les Banandé. Par exemple, chez les Banandé, voler, c'était interdit. Coucher avec une autre femme qui n'est pas votre femme, c'était déjà un interdit. Parler de mensonges ou de commérage, c'était déjà des interdits. Ou bien aller travailler les jours où c'est interdit d'aller travailler, hein, aller au champ par exemple, ou aller à la chasse les jours où c'est consacré à autre chose, c'était déjà un interdit. Je parle de cela par rapport à la morale qui est dictée à travers la Bible. Donc, maintenant, il y a des interdits, je peux me permettre de les dire, qui sont liés à certaines circonstances ou à certains événements, ou des interdits qui sont liés à la famille, ou des interdits qui sont liés même face au comportement social, à l'organisation sociale, par exemple, par rapport au pouvoir politique ou au pouvoir du prêtre, parce qu'il en existait dans la communauté de Banandé dans l'histoire.
Alors parlons des interdits relatifs aux circonstances chez les Banandé.
Donc il y a des événements, chaque événement représente une symbolique. Et la symbolique est liée à un certain comportement qui dicte des interdits. Par exemple, face à la mort n'annonce pas. Et tant qu'elle n'annonce pas, il y a une panoplie d'interdits qui sont liés à la mort. Par exemple, si quelqu'un est mort dans un village, chez les Banandé, vous ne pouvez pas aller au chat. La mort décrète ce qu'on appelle Echushi. Ça veut dire, tout court ça, nous nous réservons de faire ceci. Donc, quand quelqu'un est mort, vous ne pouvez pas aller au champ. Vous ne pouvez pas aller faire votre travail habituel. Vous devez aller combattre avec la personne qui est décédée. Même si vous ne l'aimez pas, il est interdit d'aller, comme les bananes sont agriculteurs, d'aller au champ quand quelqu'un est mort. Mais aujourd'hui, même votre voisin mère, bon, vous vous levez, vous allez à votre travail normalement. Ça n'a pas de sens. C'est parce que bon, c'est le moderne. Moi, je suis. Sinon, on va me chasser de mon travail. Non, mais expliquez, nous ne sommes pas en Europe ici où on va dire que ton voisin n'est pas ton familier. Expliquez quand même que c'est mon voisin, quand même, je ne saurais pas aller. Donc, tout court, ce qu'on vit, nous abstenons d'aller travailler parce que quelqu'un est mort. Ça, c'est par exemple lié à la mort. Des interdits, par exemple, qui sont liés à la mort, c'est aussi, il était interdit aux femmes de regarder le corps de quelqu'un qui est mort. C'était le travail des hommes de s'occuper de ça. Pourquoi on interdisait ça? Parce que les femmes sont émotionnelles. Les hommes, on dit que les larmes des hommes coulent dans le ventre. Ça veut dire qu'eux ne savent pas pleurer parce qu'ils doivent prendre la relève même quand ils sont dans une étape difficile. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les femmes qui sont devenues plus proches de ceux qui sont décédés. Et laisser les hommes aller boire du thé, c'est pas à faire autre chose.
Juste à cet événement-là, à la mort, quand vous dites que le voisin, il est mort, selon la modernité, comme vous le dites, on vous donne un congé quand c'est une personne de tel degré qui est mort, mais le voisin ne figure pas sur la liste.
Oui.
Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence aujourd'hui dans la communauté?
Mais cela bloque les relations sociales. Parce que, imaginez-vous, vous allez, le jour que quelqu'un est mort, votre voisin va aller travailler. Bon, d'abord, tout le monde dans le quartier dit, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il est normal? Même s'il n'est pas monandé, si votre voisin meurt et vous allez à votre travail, tout le monde se dit, mais est-ce qu'il est normal? Est-ce que ce n'est pas lui qui l'a ensorcelé, en fait? Est-ce qu'il avait de bonnes relations avec lui? Mais c'est parce que la modernité de votre travail vous l'exige. que vous y allez. Mais je pense que parfois aussi, ce sont des excuses qui ne valent pas. Vous pouvez bien expliquer à votre supérieur que c'est vrai, c'est pas dans la législation, c'est pas écrit, du travail, c'est pas écrit. Mais est-ce que vous comprenez que c'est mon voisin direct? Ça veut dire, par exemple, généralement chez nous ici, c'est chez le voisin direct où on va amener certains visiteurs, où on va entreposer certaines choses, où on va... Voilà, c'est à cause des relations. Et si vous n'êtes pas là, hein, qui va donner les clés de la maison? Qui va dire, bon, vous pouvez occuper cet espace et non cet espace? Ça veut dire, je pense que ce sont les choses sur lesquelles on peut manager, mais la modernité nous dicte un certain comportement qui brise les relations sociales. Parce que quand vous faites ça, votre voisin meurt, vous allez travailler, votre tour viendra. La seule chose dont on est 100% sûr, c'est que tout le monde mourra. Même vous allez mourir. Même moi, je mourrai. Ça veut dire que je dois manager tant que je suis vivant, que ça, quand ça arrive à quelqu'un d'autre, je fasse de telle sorte que, hein, n'est-ce pas, ça soit possible que je montre un certain comportement où j'ai combattu. Parce que quand ça m'arrivera, que les autres ne puissent pas aller à leur travail, qu'ils combattissent avec ma famille de ceux qui resteront. Et par là, toujours les interdits liés à la mort, par exemple, il était interdit que les enfants aillent au cimetière. Mais dans nos cimetières aujourd'hui, c'est le lieu d'amusement des enfants. Moi, quand j'étais un enfant, je me rappelle, même déjà, quand quelqu'un mourait et qu'on va traverser le village avec les cercueils, on nous enfermait, nous les enfants, dans les maisons, pour que nous ne voyions pas. Si quelqu'un t'accuse que tu as regardé par la fenêtre, un de tes frères dit « Non, il a regardé !» Ah, l'offenseur et les parents vont te corriger. C'était un interdit que les enfants... pour qu'ils ne soient pas traumatisés en grandissant, il ne faut pas qu'ils voient pareille chose. Mais aujourd'hui, on banalise cela. On fait une parade. On cherche des enfants, on les habille avec des tenues. En fait, c'est les traumatiser. C'est les traumatiser. Même pour... c'est la grand-mère qui est décédée, je ne dis pas parce que la grand-mère est très loin de la famille. Mais il y avait un comportement que les parents nous ont enseigné, qu'il ne faut pas que les enfants soient exposés à la mort. C'est interdit que les enfants voient des cadavres, les croix, les cercueils. Ça les traumatise, ça laisse dans leur mentalité à vie. Donc, aujourd'hui, quand on banalise cela, ce n'est pas correct. On peut bien raconter aux enfants que quelqu'un est décédé, on peut bien les faire participer à la cérémonie, mais faire comme un théâtre, on a théâtralisé la mort et amener les enfants à des gens de cérémonie, je pense qu'il est important qu'on réfléchisse encore que ça, ce n'était pas bien. Si nos aïeux ont dit que ce n'était pas bien, ils avaient bien des raisons. De toute façon, c'est la question qu'on peut se poser. Quand vous exposez les enfants, qu'ils viennent mettre des uniformes et tout ça, vous les mettez devant avec des bouquets de fleurs, vous les rajoutez quoi? Dans ces comportements-là, les enfants gagnent quoi? Au contraire, vous les traumatisez à vie. Ils vont garder ces images-là toute leur vie dans leur tête. Donc, je pense que c'est très important. C'est comme ça que les enfants n'ont plus peur. Ils voient, ils sont sur la rue avec des jouets. Ils commencent à tirer eux-mêmes. On gaise ça. C'est parce qu'on a banalisé les événements comme la mort. Donc, je pense que la modernité, on doit appliquer. Les gens disent, oui, mais en Europe, les enfants aussi sont là, les jours de la mort, on les voit devant. Oui, mais on n'est pas en Europe ici. On est en Afrique.
Et vous pensez que cela crée des adultes instables?
Je pense effectivement que même toi-même, si tu es passé par une étape où quand tu étais un enfant, quelqu'un est décédé et tu es resté, ça t'a marqué à vie. On aurait pu éviter que cela reste dans ta tête. Donc, je pense que tu grandis avec cette plaie dans l'esprit et on ne sait pas les conséquences comportementales que tu affiches. Par exemple, quand on te dit que quelqu'un est mort, tu te rappelles ce stress. Il est resté et tu es traumatisé à vie. C'est vraiment, chez nous, c'est parce qu'on banalise les conséquences du stress. On ne sait pas les calculer, mais sur ton rendement de travail, dans la gestion de tes relations, dans la relation de ta famille, on ne sait pas ce que cela a comme conséquence. Parce que nous, on ne sait pas structurer ça comme le modernisme le veut, mais des études ont montré que ceux qui sont exposés à ce genre de choses sont blessés à vie.
Alors, une autre circonstance, un autre événement, les mariages. Est-ce qu'il est aussi entouré d'interdits chez les Banandi?
Oui, il y a des interdits qui sont liés au mariage et qui valent la peine. Par exemple, je vais citer l'interdit qui voulait avant que la belle-mère n'aille pas au festin de noces de sa fille. Mmh. Il était interdit que la belle-mère aille. D'ailleurs, c'est le sens de la chèvre qu'on dit « Mbose Yakosava ». Ça veut dire avant que la fille va partir demain ou ce soir chez son, dans la famille, dans la belle famille, donc pour aller au mariage, on amène une chèvre dans sa belle famille. Cette chèvre-là symbolise que la belle-mère elle ne peut pas aller au festin de sa fille. Alors, on lui amène sa part de festin la veille chez elle. Elle peut fêter avec ses amis. Parce que la belle-mère souffre psychologiquement de la séparation avec sa fille. Elle est proche de sa fille. Elle a éduqué sa fille comment il faut gérer son mari. Mais à la fin, elle va se séparer avec sa fille. Et dans beaucoup de mariages, elle a la peine de regarder sa fille. Donc, nous allons là-bas, on va la laisser ici. Alors qu'on devait rentrer avec elle chez nous. Et comme ça, on interdisait à la belle-mère d'aller au noce. Mais c'est un interdit qui est peu légère. Si aujourd'hui, les belles-mères vont dans les mariages, c'est parce que ce n'est pas trop grave. Mais c'était interdit à une belle-mère, donc à la maman de la fille, d'aller participer au festin, donc au noce de sa fille. Mais les autres interdits, c'est comme le jour du mariage. Bon, par exemple, déjà, aujourd'hui, les questions de virginité sont banalisées. Quand tu parles de ça, les gens disent « Ah, tu racontes quoi ?» Il était presque difficile qu'une fille qui n'est pas vierge, qui sait qu'elle n'est plus vierge et qu'elle n'a pas été violée, c'est-à-dire qu'elle a fait ça dans son propre comportement, il était calculé qu'il est interdit qu'elle se marie. Parce qu'elle elle n'honore pas la famille. Honorer la famille, c'est aller se donner entièrement à toute pureté, hein, à l'homme qui va devenir mon mari à vie. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, si tu dis ça à une fille, elle va te raconter des choses, elle risque même de t'insulter. Alors que c'était une valeur. Oui, c'était quand même aussi trop lourd de dire qu'elle ne peut plus se marier. Parce que bon, elle ne peut plus se marier maintenant. Bon, il y a quand même quelqu'un qui l'aime malgré qu'elle a perdu cette valeur d'être vierge. Mais c'était un interdit que les filles qui se savent ou dont les parents savent déjà que pareille chose a déjà eu lieu, ne pouvaient plus, a déjà connu un homme. Parce qu'il y a quand même la différence entre rester vierge sans connaître un homme et rester vierge tout en ayant perdu lui-même. Ça veut dire que les travaux peuvent faire que tu as perdu. Ici, je parle de la virginité, de connaître un homme avant de se marier. Donc, ça, c'était quelque chose de très sacré sur lequel, chez les bananes, on tenait tellement. D'ailleurs, les tantes du mari devraient vérifier au lendemain des noces s'il n'y a pas eu l'expression de la rupture de la virginité. Bon, maintenant, on a banalisé tout ça. Et moi, je pense que banaliser ce genre de choses fait croire aux filles que c'est normal. Je trouverai toujours un homme. Et même si je prends les premiers aujourd'hui, que demain, il s'en va, que le troisième viendra, à la fin, j'essaierai de trouver les miens. Banaliser ça, on en est arrivé là-bas. Même si je ne suis pas vierge, est-ce que c'est un problème? Mais donc, je pense que si on rentre sur de telles valeurs, d'ailleurs, c'est l'éducation qui doit demeurer dans les familles, pour dire non, il faut se protéger jusqu'au jour où vous allez rencontrer la personne qui va être votre conjoint. Hein? C'est le banane qu'on appelle Omuraware, mon ami, qui va rester ton ami à vie. Hein? Votre mari, c'est votre ami. C'est comme ça que ça se dit chez les bananes.
Alors, Monsieur Kennedy Wema, nous poursuivons notre émission sur les interdits chez les Nandés. Nous venons de parler de quelques interdits liés aux circonstances, à la mort, au mariage, mais aussi les interdits dans la vie courante. On peut revenir sur quelques-uns?
Il y avait un tas d'interdits qui, aujourd'hui, sont liés à la morale biblique. Maintenant, il y a d'autres interdits dans les comportements normaux. Avec ta belle famille, par exemple, les beaux-fils, il était interdit même qu'il serre la main de sa belle-mère. Donc, il m'était interdit. Moi, si je vois ma belle-mère, je dois même changer de route. Si je la vois, nous sommes dans un sentier au village, et que je la remarque qu'elle est en train de venir de l'autre côté, je dois m'écarter pour la laisser passer. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La belle-mère, tu vois, un monsieur, il se réveille parce qu'il est dans sa maison avec un beau salon. Il se réveille même à cinglet ou torse nu, avec une grosse culotte là. Et sa belle-mère est assise là-bas. Il vient, il passe là-bas, à Barry Maman. Je dis, non. Ça, c'était un comportement de manque. Il est irrespectueux. Mais c'est vrai, chez les Européens, les Occidentaux, la belle-mère, ça n'a rien de grave, quoi. Vous pouvez rigoler. Mais avec les belles-mères, entre beaux-fils et belles-mères, il y a énormément d'interdits. D'ailleurs, par exemple, la belle-mère ne peut pas passer la nuit sous les mêmes toits que son beau-fils. Quand je dis sous les mêmes toits, c'est la même maison. Ça veut dire, si toi, tu vas chez tes beaux-parents, à principe, tu ne peux pas dormir dans la même maison que tes beaux-parents. Tu dois dormir dans une autre maison. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'acte qui conduit à la naissance, qui produit là une personne, qui paraît un mauvais accident, t'y attende quelque chose lié à ça. C'est très scandaleux et ça peut te marquer à vie. Mais aujourd'hui, on a banalisé ce genre de choses. Ton beau-père, si tu es une femme, tu ne peux pas lui saluer la main comme ça, tu ne peux pas lui suivre ses habits. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal que, bon, le beau-père est là, vous buvez des bières avec lui, vous vous retrouvez dans les mêmes bars avec lui. Et ça devient, on normalise aujourd'hui, c'est ça le modernisme. Non, ce n'est pas le modernisme. En fait, pourquoi c'était interdit? Parce que la relation qui lie le beau-parent et le beau-fils ou la belle famille, ce sont des relations sacrées. Et les sacrés, on ne s'amuse pas avec. Donc ça, c'est par exemple lié à comportement vis-à-vis des bons parents ou de la belle famille. Un autre interdit, par exemple, qui semble banal, il était interdit de siffler le soir. Or, le soondo, c'est-à-dire siffler, chanter, siffloter le soir, il était interdit. Pourquoi il était interdit de siffler ça? Parce que siffler, c'était une communication qui, d'ailleurs, à la fois est liée à la communication avec les dieux. Les prêtres pouvaient siffler pour appeler les dieux ou bien pour communiquer un message avec les dieux. Et que le soir, il ne faut pas déranger le dieu. Ils nous ont déjà protégés toute la journée. Et qu'on ne les dérangeait pas, qu'on ne commençait pas à les appeler le soir. Donc, on a commencé à siffler. Il était interdit de siffloter le soir. Et aujourd'hui, ils voient les gars commencer à chanter. Ils vous dérangent, ils chantent à l'extérieur. Ils sifflent même la nuit. Et c'est vrai, déjà vous dites, mais ça change, je crois, s'ils sifflent. Oui, mais est-ce que vous savez le force du cosmos? Il y a beaucoup de forces. Nous croyons en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Mais je crois aussi en force du cosmos. Je n'aime pas la foi, c'est la différence. Je n'aime pas la foi dans les forces du cosmos. Mais je crois en force du cosmos. Si vous ne croyez pas, on voit pourquoi vous les regardez. Pourquoi quand ils vendent les arbres, les souffles, vous dites, ah, mon vent est à neige. Ça veut dire que vous savez que le vent existe et qu'il a une certaine force. Déjà, c'est impoli de déranger les gens le soir. C'est pas poli. Pourquoi vous commencez à siffler le soir? Toute la journée, vous avez la journée, mais c'est le soir que vous choisissez pour commencer à siffler, à déranger les gens. Il était interdit de siffler le soir aussi, comme je dis, c'était lié au sacré, au Dieu, mais aussi au même moment, c'était lié au comportement que c'était ça, c'est de respect, ne dérangez pas les autres le soir. Le soir est consacré à autre chose. Le soir, chez les Banandes, c'était vous allez manger ensemble, généralement, on mangeait toujours ensemble, mais aussi, le soir, c'était le moment où les parents donnaient les conseils aux enfants, aux jeunes. Alors maintenant, vous, on est en train de conseiller les gens, vous passez là, vous sifflotez. Toute la journée, vous étiez où pour siffler? Donc, c'était l'ensemble de ça. C'était un interdit qui est banal, mais qui avait une certaine valeur, je pense, qui est importante. D'ailleurs, aujourd'hui, si quelqu'un siffle dans votre parcelle, vous dites, non, n'est-ce qu'on a son bois, va te parler. Ça veut dire que c'est déjà un geste malsain.
Et par rapport au dérangement, si c'est un enfant qui le fait à côté des adultes, ça fait encore plus mal.
Il était interdit aux enfants, d'abord déjà d'approcher les adultes si on ne les a pas invités. Mais de nos jours, les enfants sont devenus des rois. Vous êtes au salon en train de discuter des choses sérieuses, il y a des gamins qui viennent, commencent à mettre les volumes de la télévision. Il y a des visiteurs, ils viennent sauter sur les visiteurs. Ça peut être un tonton, un oncle. La relation avec les oncles chez les Banandes, le neveu et l'oncle, ce sont des grandes relations. Mais ça ne dit pas que vous pouvez commencer à toucher les cheveux. Non, c'était un comportement sur lequel il fallait beaucoup de respect. Donc, les enfants ne devaient pas s'inviter là où il y a le vieux, là où il y a les grandes personnes. Quand on discute, les grandes personnes, on suppose que quand ils sont réunis, ils parlent des choses très sérieuses. Ne venez pas les perturber. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons avec nos enfants? Nous avons donné, je m'excuse, beaucoup de pouvoir à nos enfants. Qu'ils peuvent même vous être en train de téléphoner, ils ravivent votre téléphone. Les enfants respectaient, c'était une obligation de respecter les grands, de ne pas se mêler des choses des grands. Sauf, comme j'ai dit, il y a des relations, par exemple, entre la tante et les nièces. Tu n'as pas besoin que ta tante t'évite là où elle est. C'était naturel, il y a un feeling qui était naturel. Mais quand la tante est en train de parler avec son frère, donc ton père, tu ne vas pas venir déranger. Tu ne sais pas, ils vont parler de quoi? Peut-être qu'ils vont parler de ta mère. Parce qu'ils sont frères, eux, les deux. Ils vont parler de ta mère, qu'elle me crée la vie difficile. Et toi, tu es là en train d'embrouiller les gens. Les enfants avaient un certain comportement qui aujourd'hui n'est plus un interdit, c'est devenu comme la norme.
Voilà, et dans cette émission, nous parlons des interdits et la modernité et les conséquences sur la société actuelle de banaliser certains interdits. Ces comportements-là, qu'est-ce qu'ils nous amènent comme conséquences dans la société?
Mais si aujourd'hui, tu vois, les enfants, il y a même quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, il vient à la maison, mais il aussi vient s'asseoir au salon. Avec, ils ne savent pas, il vient faire quoi et il est qui? Ça amène à un certain comportement que ça devient que les enfants ne voient plus à l'adulte le sens de l'autorité. Les enfants croient qu'ils sont même plus puissants que les adultes. Ils peuvent venir, vous êtes en train de boire votre bière ou votre whisky avec les amis, en famille, et viennent troubler le public. Non, ça n'a pas de sens. Il doit être respectueux. Il va manquer de respect parce qu'il pense qu'il a déjà atteint la maturité alors qu'il est encore un gamin. Donc, je pense que ça, ça joue énormément sur le devenir des enfants. Il va grandir en croyant qu'il est roi. Lui peut s'imposer, il peut vous imposer des choses. Les enfants de nos jours, ils viennent, vous regardez le match, ils mettent les dessins animés parce que nous avons habitué qu'ils peuvent venir troubler l'ordre là où il y a les arbitres avant qu'on les évite. Je vais même aller plus loin. Il était interdit que les enfants mangent avec les adultes. Pourquoi? Parce que les enfants doivent avoir une certaine éducation de comment on mange. Manger, c'est un geste sacré. Ce n'est pas un geste banal. Comme ça, si vous ne mangez pas, vous mourrez. Alors, il était interdit aux enfants parce qu'on doit surveiller que les enfants mangent normalement. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il finit la quantité qu'il faut? Ou s'il est gourmand par rapport aux autres? Alors, les enfants mangeaient avec un seul adulte qui les éduque que quelqu'un ne coupe pas de grosses mottes. Ok, parce que les bananes aiment la pâte de manioc et de mil ou de sorgho ou autre, la pâte surtout. Et qu'il ne faut pas trouver la motte. Les grandes personnes ont le droit de le faire, mais un enfant ne peut pas le faire. Parce que s'il grandit avec ça, c'est interdit aux enfants de manger comme ça. Alors il y avait quelqu'un, il ne peut pas manger avec les adultes. Ce n'était pas qu'on les exclut, non. C'est pour qu'ils apprennent. C'était une éducation comment on mange quand on est avec les adultes. Que les enfants ne prennent pas des morceaux de viande dans la cuvette ou dans les plats avant les aînés. On les éduquait comme ça que quand vous avez fini votre partie, assignée à votre ventre, attendez qu'on vous dise, maintenant on peut boire la soupe. Maintenant, on va manger la viande. C'était une éducation. Les gens vont dire, ouais, mais est-ce que ça a vraiment aidé? C'est une question d'éducation. Vous serez content que votre fils aille dans la famille X et qu'à la table, on vous dit que non, le gars, il a pris 4 morceaux. Vous allez être honteux que quand il va rentrer, vous allez le gronder, à la limite, le fouetter. Qu'est-ce que vous êtes allé nous foutre la honte là-bas? C'est parce que vous lui avez appris que quand on est à table, les papas se servent, vous aussi vous servez, vous pouvez prendre 3 morceaux parce que nous on est des riches et la viande on la calcule pas. Ce n'est pas question de richesse, c'est une question d'éducation. Mais qu'aujourd'hui, on a banalisé. Et ça amène que les enfants font des comportements, mais quand on vous les rapporte, vous dites ah là là, mais c'est quoi ça? Vous sentez que c'est honte parce que vous, vous êtes l'aîné, vous savez que quand vous étiez enfant, pareille chose ne pouvait pas être faite.
Un extrait d'une chanson en langue nandé. Vous écoutez Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous parlons des interdits dans la communauté nandé. C'est avec notre invité, M. Kennedy Wema. Après avoir parlé des interdits liés aux circonstances, des interdits relatifs à la vie courante, on a parlé au début des interdits liés au pouvoir, M. Kennedy.
Bon, le pouvoir, il est aussi sacré. Les gens vous disent, mais attends, il dit que toutes les choses sont sacrées. Oui, parce que les dieux ont un pouvoir. Les dieux, c'est la symbolique même du pouvoir. Et il était interdit, par exemple, pour les bananes par rapport au pouvoir du chef coutumier, qui est à peu près le représentant du pouvoir politique d'aujourd'hui, par exemple, de saluer le chef vaille que vaille. D'abord, on ne citait pas le nom du chef. Il y avait certaines personnes qui ont le droit de citer le nom du chef. Les gens vont dire, oui, mais est-ce que ça, c'est un problème? Je dis, oui, Nous avons banalisé les noms des autorités. Est-ce que vous serez content que votre enfant vous appelle votre nom? Non. Vous allez dire qu'il est mal éduqué. Il doit, votre enfant doit vous appeler par le titre maman ou papa. C'était la même chose avec les chefs. Je vais chez le roi. Mais aujourd'hui, quelqu'un te dit, je vais chez X, en parlant du chef, comme si c'est son égal. Non, le chef avait le sens du pouvoir. A devait toujours avoir le sens du pouvoir parce qu'il les rêvait. Il est né avec cette autorité-là. Et pour ne pas le banaliser, il était interdit de citer le nom du roi. Seules quelques personnes liées à ce pouvoir pouvaient, par exemple, le prêtre pouvait appeler le chef par son nom. Mais aujourd'hui, les gens appellent les chefs par leur nom. Il y avait un respect envers les chefs, envers à la fois la personne du chef, à commencer par le nom du chef. On ne pouvait pas les citer pêle-mêle. Moi, j'ai grandi chez les Bamate. Le Mwami s'appelait Butsumbwa à l'époque. Or, Eretsumba signifie pétrir la pâte. Si vous arrivez à Bohimba, donc vers Lubango là-bas, si tu dis à Kenande, les gens vont se fâcher. Tu viens décider le nom du chef.
Il s'appelle vous
pouvez faire les foufous. Et ils ont une variante de même mot qu'on dit Eretsumbobundu et disent Eripukobundu pour éviter de citer Botsumbo, le nom du chef. Donc tu vois que interdit de citer le nom du chef, ça fait que l'essence du respect profond à quelqu'un qui est investi du pouvoir de nous diriger. Mais aujourd'hui, c'est banal. Les gens citent le nom du président, comme ça. À la limite, ils le transforment. Ils le tournent en dérision. Ça, c'est un manque criant de respect. Et ça, c'est... Si vous vous comportez comme ça devant vos enfants, vous commencez à citer les noms, même déjà de leur professeur, vaille que vaille, si vous ne dites pas le maître ou l'enseignant, un jour, il va vous appeler par votre nom. Maintenant, vous allez vous fâcher. Que non, pourquoi toi? Non. Le chef, quelqu'un qui est investi d'une autorité par rapport à soi, on ne cite pas son nom. On appelle par son titre. Le chef, pour lui parler, il y avait un certain comportement. On ne peut pas le regarder dans les yeux. Quand on voit le chef, il y a des attitudes à tenir. Même si vous ne l'aimez pas, vous pouvez ne pas aimer sa personne, mais le pouvoir dont il est investi vous exige d'avoir un certain nombre de comportements. Même si maintenant, dans la politique, nous exagérons un peu, qu'ils font des tenues X pour aller les s'allier, tenues des villes exigées, tout ça. Bon, ça, c'est de la modernité, ce sont des extravagances. Mais vous ne pouvez pas se rencontrer le président, il est allié comme votre ami. Même s'il est votre ami, quand il est investi d'un pouvoir, c'est ce pouvoir-là que vous vénérez, à qui vous devez du respect. On devait aussi au chef ce qu'on appelle l'engemu. L'engemu, c'est quoi? C'est la redevance. Pourquoi aujourd'hui nous avons oublié de donner la redevance à nos chefs? Ce n'est pas de la corruption. Vous pensez que le chef, lui, il est investi d'une mission. Maintenant, il va aller au champ quand? Il peut pas aller au champ. Donc, il doit vivre. Pour qu'il vive bien, nous devons lui apporter une partie de ce que nous gagnons dans notre travail. Mais aujourd'hui, on a banalisé cela. Il était interdit de ne pas payer l'engemu. On pouvait vous chasser du village. Que si, après la saison de récolte, vous n'avez pas amené votre engemu chez le chef, d'abord, ça veut dire que vous êtes gourmand. Vous avez l'avarice. Vous avez quoi vous êtes chiche. Or, c'est le nande, c'est le sens du partage. Donc, c'était interdit, c'était incompréhensible que vous ne puissiez pas partager ce que vous avez gagné. Vous devriez le partager, et d'abord avec les chefs, puis avec les familles, et les voisins, et les autres. Bon, mais aujourd'hui, est-ce que nous avons encore ces valeurs-là? C'est parce que nous avons banalisé les chefs. Il était interdit que quand le chef va venir chez vous, vous gardiez votre parcelle sale. Quand le chef va venir, quand on vous annonce le Muhangami, la personne qui est devant le chef, qui annonce le chef, il vous annonce que le chef va venir, vous devez mettre de la propreté. Vous devez être plus propre que d'habitude. Les bananes sont naturellement très propres. Ils ont les toilettes, ils ont les douches. Quand le chef vient, même si vous êtes naturellement propre, vous devez être plus propre que quand le chef va venir, il trouve que vous prenez en compte ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, des choses qu'on banalise, qui étaient les individus d'hier, que ah, le chef, on a couillé à Bassimbi tout gagné. Non. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi que non. Ça, c'est manquer du respect au chef et c'est briser un interdit. Et je pense que si nous rendrons à ces valeurs-là, à respecter les interdits qui vaillent qu'on les respecte, je pense que la société vivrait mieux que les égarements auxquels nous faisons face aujourd'hui.
Voilà, et c'est la fin de ces numéros du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé des interdits dans la communauté Nandé. Merci à notre invité, M. Muindo Wema Kennedy. Il est passionné de sa culture. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ces magazines ont été produits sous la coordination de Jean-Marc Matoki. Je suis Rosalie Zawadi. Vous pouvez le réécouter sur notre site radiookapi.net. À très bientôt sur ces ondes de la radio de la paix. Portez-vous bien.